Água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Água de bebê, água de bebê, camarada.
Bienvenue dans Vignes et Papilles. Une émission qui parle de vin, de vigneronnes, de vignerons, mais pas que. Cette semaine, on va parler des vins sans alcool.
La bière sans alcool, le café décaféiné, les produits dégraissés, le 0%. Alors, qu'en est-il du vin aujourd'hui ?
Eh bien, on fait du vin sans alcool. Alors, normalement, le vin, le terme vin, contient de l'alcool, puisque la définition officielle, c'est le vin étant une boisson résultant exclusivement de la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins frais, foulés ou non, ou du moût de raisin. Son titre alcoolométrique ne peut être inférieur à 8,5 degrés. Donc ça, normalement, c'est du vin.
Mais en dessous de 8,5 degrés, en fait, ce n'est pas du vin.
Non, c'est... ça n'a pas le droit de s'appeler vin.
D'accord.
En tout cas, pour la boisson qui est faite avec du raisin.
Ok.
Donc, du coup, on fait du vin sans alcool, qu'on appelle du vin sans alcool, comme on peut appeler la bière sans alcool ou le café décaféiné, parce qu'on n'a pas trouvé de terme autre pour qualifier cette boisson.
Mmh.
Donc, pour fabriquer ce vin sans alcool, c'est assez compliqué. Les chercheurs essaient de faire des recherches pour améliorer la qualité de cette boisson. C'est assez compliqué, c'est assez énergivore et c'est aussi finalement moyennement satisfaisant à mon goût, mais c'est mon goût personnel. Donc il y a plusieurs méthodes pour le faire. La première, c'est l'évaporation sous vide. Alors, c'est fait avec des grosses machines compliquées que je ne peux pas décrire à la radio.
On ne rentrera pas dans les détails techniques,
c'est trop compliqué. Donc, l'évaporation sous vide, ça se fait à basse température pour extraire l'alcool. Ça permet de séparer les arômes du vin avant de le désalcooliser et de les préserver. On met le vin dans une colonne qu'on appelle une colonne à cône rotatif. On le met sous pression tout doucement. L'alcool et l'eau s'évaporent. L'alcool est séparé de l'eau par condensation, et on remélange l'eau au vin.
D'accord. Et donc, les arômes, dans ce cas-là, sont vraiment préservés ?
Ils ne sont pas complètement préservés, parce que comme toute manipulation, entre guillemets, technique ou technologique, ça s'évapore un peu, ça part, etc. Pour redonner au vin sa couleur de jeunesse, on va dire, on peut rajouter, pas des arômes, mais des levures, ce qui se fait couramment dans le vin, qui vont redonner du goût au vin. C'est-à-dire qu'il y a des levures qui vont vous donner, je ne sais pas, des goûts de framboise, des levures qui vont vous donner des goûts de réglisse, des levures qui vont vous donner un peu plus de corps, etc., etc. Tout ça, on a le droit de les rajouter. Donc, on ne rajoute pas des arômes, on rajoute des levures qui donnent des arômes, pour ne pas jouer sur les mots.
Les mêmes levures qu'on utilise en vinification
traditionnelle.
En cuve. D'accord.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas des produits spécifiquement différents, c'est juste les mêmes produits qu'on en remet un peu, comme si, je ne sais pas, vous délayez un peu trop un sirop, vous rajoutez du sirop dans l'eau pour que l'eau ait plus de goût.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième technique qui s'appelle la technique membranaire, donc on utilise un filtre. C'est une petite membrane qui sépare l'alcool des autres composants du vin. Donc, on presse le vin à travers cette membrane. Ça sépare le liquide des arômes. On a d'un côté un liquide un peu plus riche et de l'autre, un liquide qui contient l'alcool. Et ensuite, on enlève l'alcool, on remet le liquide, on réassemble et effectivement, souvent, on rajoute de nouveau des levures pour que ça redonne des arômes et un peu plus de peps au vin.
Donc, il y a des systèmes de filtration qui sont capables, effectivement, de filtrer l'alcool du reste du composé.
Tout à fait. Donc, ça peut se faire... la première technique, ça s'appelle... c'est un peu compliqué, l'osmose inversée. Et la deuxième, c'est la nanofiltration, c'est-à-dire que c'est un petit filtre à nanoparticules qui est encore plus fin. Et la troisième méthode, c'est la distillation, sous vide ou pas sous vide. Donc sous vide, l'alcool va s'évaporer beaucoup plus vite quand c'est une pression basse. On le met dans une colonne de distillation, on chauffe tout doucement, l'alcool s'évapore d'abord et il reste le liquide où il y a les arômes et tout ce qui fait le vin sans l'alcool.
Ça, en fait, c'est un procédé relativement naturel, puisque c'est le système de l'alambic, finalement.
Oui, sauf que c'est en température très, très douce, très, très douce, et que ça enlève quand même, en tout cas pour le vin, beaucoup d'arômes et beaucoup de choses intéressantes. Et le problème, c'est que il faut remanier. Et il y a une dernière technique qui n'est pas autorisée dans l'Union européenne, mais qui est autorisée dans d'autres pays, sachant que pas mal de vins sans alcool viennent d'autres pays, sont faits par des grosses compagnies en général, qui sont des fois basées dans d'autres pays, et on peut utiliser du dioxyde de carbone pour extraire l'alcool. Donc c'est un peu comme le café décaféiné, qui est décaféiné de façon... Enfin, quand il n'est pas bio, qui est... Voilà.
Oui, à coup de solvant et autres.
Donc pour l'instant, ce n'est pas autorisé dans l'Europe. Souhaitons que ça ne change pas.
On va faire une petite pause musicale, peut-être ?
Nous allons écouter « Je bois » par Boris Vian.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Boris Vian, je bois, et aujourd'hui on boit sans alcool. Les vins sans alcool, c'est le thème de cette émission. Nous avons fait le tour donc de trois techniques de désalcoolisation du vin qui nécessitent donc toujours systématiquement, c'est ça, des rajouts d'arômes post-procédés, c'est ça?
Oui, c'est ce qui se fait le plus souvent. Alors il y a pas mal de... Enfin, il y a des détracteurs qui disent que c'est pas vrai, que c'est pas possible. Alors, je suis pas effectivement dans la fabrication du vin sans alcool. Je note de mon expérience que c'est pour l'instant beaucoup de grosses boîtes qui font ça, de grosses entreprises, genre Martini, si on peut citer des marques, enfin ce genre de choses. Mmh. Que tous les petits vignerons que j'ai rencontrés, avec qui j'en ai discuté, trouvent que c'est complètement idiot de faire du vin sans alcool. Après, on ne peut pas mettre de côté les besoins de certaines personnes ou les envies ou la mode qu'on veut lancer parce qu'on a fait du café décaféiné. Alors, on ne sait pas si c'était pour répondre à une demande ou pour créer la demande. En attendant, il y a des gens qui boivent de la bière sans alcool. On peut avoir envie de boire du vin sans alcool, c'est tout à fait logique. Ce qui me gêne, ce n'est pas le fait que ça existe, c'est la façon dont c'est fait, qui est quand même pas très naturelle. Donc, il existe il y a une personne qui a trouvé une façon différente et certainement plus écologique de faire du vin, qui est un œnologue diplômé de Dijon, qui s'appelle Fabien Gross, et qui a fait des travaux par rapport à ça. Et il s'est aperçu que la levure du pain pouvait faire fermenter le raisin sans produire de l'alcool. Donc, il a même pas déposé le brevet. D'après ce que j'ai vu, il a fait du vin avec cette formule-là, donc sans alcool, mais d'une façon naturelle, c'est-à-dire qu'il n'a utilisé aucune machine pour désalcooliser. Et je ne l'ai encore pas goûté, ça s'appelle le vin, et ça a l'air assez sympa, et en tout cas bien plus propre que toutes les autres solutions qui existent. Donc ce n'est pas
du vin en un seul mot.
Oui, le vin en un seul mot. Donc ce n'est pas du vin non plus, pas plus que le vin sans alcool peut s'appeler vin. Mais en attendant, le procédé de fabrication a l'air bien plus intéressant et surtout bien plus écologique, ce qui, de nos jours, est quand même pas négligeable.
Le vin, donc, est donc clin d'œil au levain de boulanger qui l'utilise. Alors, donc, le raisin peut donc fermenter sans se charger en alcool grâce à ce procédé, c'est ça ?
Grâce à ce procédé. Alors, il y a plein de scientifiques qui cherchent... d'autres façons, qui cherchent une autre solution. Mais en attendant, lui a trouvé ça et ça a l'air plutôt intéressant. Oui.
Très bien. Un petit peu comme les procédés de décaféinisation, c'est comme ça qu'on dit, pour le café à base d'eau au lieu de solvant. C'est
oui.
Ça, voilà.
La différence, oui. C'est que les procédés pour faire du café décaféiné à l'eau prennent des litres et des litres d'eau. Et que... c'est louable pour la santé, mais écologiquement, c'est certainement mieux qu'un solvant, mais en tout cas, ça utilise beaucoup d'eau, alors que là, bah, il n'y a pas de perte écologique et il n'y a pas d'empreinte carbone spécifique, donc ça a l'air plutôt prometteur.
C'est un procédé que nous allons suivre de près et voir peut-être aussi quels sont peut-être les cépages les plus adaptés à ce type de procédé,
voilà.
Parce que certainement que des recherches vont être effectuées dans ce sens.
J'espère.
Nous allons écouter une autre petite musique.
Oui, pourquoi pas. On peut écouter L'eau et le vin, par exemple.
L'eau et le vin, Vanessa Paradis.
Je veux l'eau des matins et le vin quand qu'il convient. L'eau elle vint, je veux l'eau elle vint. La mer qui me revient, je veux l'eau des marins. Le chagrin il est vain d'en rejeter. Trop de tanins me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée. Il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau est le vin, je veux l'eau est le vin. La terre est le venin, je veux l'eau des matins. Si bon que le pain, le vin qui me parle et l'eau qui ne me dit rien. Poisson dans l'un, poisson dans l'autre. L'eau et le vin. Le chagrin il est vain d'en rajouter. Trop de tanins me fait sombrer. En zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. Ça tient. L'eau est le vin. L'eau est le vin. L'eau est le vin. L'eau est le vin. À quoi ça tient?
Et le vin, ben on commence souvent par un grand verre d'eau quand on arrive au restaurant avant de passer au vin. Et ben donc c'est l'heure de la nouvelle chronique. Je laisse Christine nous présenter cette nouvelle chronique que l'on retrouvera de temps en temps, effectivement, dans l'émission Vignes et Papilles.
Ça s'appelle Un plat, un vin. C'est-à-dire que je vais aller rencontrer certaines restauratrices et certains restaurateurs qui le souhaitent, enfin qui seront d'accord de participer. Pour faire associer un plat, leur plat préféré ou emblématique, avec un vin que moi je vais choisir pour s'accorder à ce plat. Donc on va commencer aujourd'hui avec Pierre, de la table du Ludi.
Ce seront des restaurateurs locaux de Sainte-Afrique et des environs?
Oui, bien sûr, de Sainte-Afrique et des environs, oui, oui.
Eh bien c'est très bien, je vous laisse en compagnie de Pierre Pellerin.
Un plat, un vin. Donc, on va accueillir Pierre de la table du Ludi. Donc, j'aimerais bien d'abord que tu nous présentes ton établissement, le projet, etc.
Ouais. Alors bonjour à toutes et à tous, merci à Radio Centrafrique et merci à toi Christine de m'avoir invité. Moi j'ai repris la table du lieu-dit en octobre 2024. C'est un café associatif qui fait une sous-location d'une cuisine aménagée et dans un but de pouvoir permettre à des personnes de tester leur activité. Moi je suis arrivé après 11 ans d'activité d'Aurélie. Voilà, j'ai un peu travaillé avec elle, donc je suis un petit peu inspiré aussi par ce qu'elle a fait. Et puis, j'ai des inspirations propres, plus, entre guillemets, plus sur de l'exotique. Et là, j'ai la chance de me former sur des, entre guillemets, des menus plus classiques et puis de renforcer énormément ce côté exotique avec mon Sébastien Dubrulle.
Côté exotique qui est bienvenu à Centrafrique. Et ta clientèle, c'est qui ?
Ma clientèle, c'est entre des gens qui travaillent, qui viennent manger le midi, des personnes qui ont envie de manger un bon plat, pas forcément toujours à la recherche de l'exotisme, mais comme tu dis, effectivement, sur Saint-Taf, voilà. C'était aussi d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir, parce que moi-même, je ne trouvais pas ici ce que j'avais pu connaître ailleurs. Hein, c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Et c'est pour ça que je me suis mis d'ailleurs à cuisiner des plats, dont celui que je t'ai apporté, là, le bœuf curry vert, hein, qui a évolué parce que j'ai eu plus de savoir-faire maintenant. Et du coup, je suis passé de la pâte de curry vert déjà faite à la pâte de curry vert maison. Et voilà, ça, c'est pas mal du tout.
Miam, miam. Donc, est-ce que tu veux nous en parler, nous donner la recette, nous expliquer comment ça marche, comment tu prépares ça, tout ça
Après, je vais faire ça de manière assez succincte. Mais alors, normalement, je fonctionne avec plutôt de l'émincé de bœuf. C'est-à-dire que je fais des tranches très fines, que je retranche pour que ça, on n'ait pas besoin de couper, en fait, que ça soit mangeable directement comme ça. Là, pour le coup, c'est un bœuf plutôt des morceaux type bourguignon. Mmh. En fait, ça marche très bien aussi. C'est juste beaucoup plus long en cuisson. Ouais. Mais ça apporte un autre arôme aussi à la sauce. Donc après, ce bœuf, il est dans une sauce dont la composante principale qui va nous donner le goût, c'est cette fameuse pâte de curry vert. Et du coup, cette pâte de curry vert, on l'a fait avec des ingrédients. C'est assez basique dans la cuisine thaïlandaise, mais c'est surtout les proportions qui vont varier. Mais du coup, on va avoir de l'échalote. On va avoir un petit peu d'ail, on va avoir du cumin et de la coriandre en poudre, on va avoir de la peau de citron kombawa, donc ça c'est un citron plutôt des zones tropicales et qui a un goût très fort, voilà, dont on peut utiliser aussi les feuilles, on en rajoute, donc feuilles, peau. On rajoute du galanga, c'est un cousin du gingembre qui pique pas, mais qui a un arôme plus camphré, très doux, enfin, c'est très intéressant. De la citronnelle, voilà. Et on va venir hacher tout ça avec un peu de piment vert, si on peut, pour continuer à donner la couleur. Et un peu de coriandre aussi, pour donner cette couleur verte. Fraîche, donc en feuilles. Et voilà, on met ça avec de l'huile, du sel, et on mixe. Alors, c'est là qu'il faut avoir un bon blender, parce que sinon, c'est pas assez fin et on sent trop les morceaux. Mais voilà, ça, c'est notre base. Et on va faire revenir un peu la viande avec. Et puis après, on va tout mettre dans une casserole, enfin voilà, une petite marmite. Et on va rajouter, soit si on a du bouillon, on peut en mettre un peu. Et sinon, on va rajouter du lait de coco. Voilà. Et on va réassaisonner en fin de cuisson, parce que les arômes vont avoir tendance à partir un peu. Donc c'est pour ça qu'on garde toujours de la pâte de curry vert pour réassaisonner à la fin et avoir vraiment ce qu'on veut. Et là, dernièrement, ce qu'on a rajouté, c'était, je vais finir là-dessus, c'était un petit jus de coriandre. Et du coup, le jus de coriandre, c'est un jus vert de coriandre mixé, mais qui reste vert parce qu'on l'a travaillé. Et là, quand on ajoute ça à la sauce, elle prend un vert chlorophylle, c'est magnifique, et ça vous pète dans la bouche, quoi.
D'accord. Et ces ingrédients, tu les trouves où ?
Le galanga et le citron kombawa et les feuilles de citron kombawa, ça, on va avoir du mal à le trouver ici. Il faut dans un Paris Store, par exemple, à Saint-Jean-de-Védas, pour ne pas faire de la pub.
Ou
à Toulouse. Et puis le reste, ma foi, on le trouve à peu près partout, quoi.
D'accord. Et la viande, tu te fournis où ?
La viande, moi, je fonctionne avec le geek de Gabiol, qui est dans le 31, oui, j'ai toujours un doute. Et voilà, qui fait des bons morceaux, c'est chouette, à des bons prix, une bonne qualité de viande.
D'accord. Le fait que, quand même, les repas que tu proposes, outre le fait qu'ils sont délicieux, j'ai goûté, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin non, il faut ouvrir les yeux parce que c'est joli quand même. Et à des tarifs vraiment pas chers. Mm-hmm. Comment tu gères ça ?
Il va falloir voir, parce que là, dans ma première année d'exercice, j'ai deux avantages qui font que je ne suis pas dans une situation, entre guillemets, réelle. plus le fait d'être en tremplin avec un loyer assez réduit. On va voir comment ça se passe, mais j'ai déjà dû augmenter de 2 euros. Oh, trop bien, une livraison d'Aïe des Ours en direct à la radio.
Waouh !
Magnifique ! Polo, je dois te dire que je n'ai absolument pas pris l'argent que je dois te donner. Est-ce que ça peut attendre samedi ? Je suis désolé.
Samedi ?
Ouais, bon. Je suis désolé, cher Polo. J'ai complètement oublié, je suis parti préparer l'émission. Et...
Pas problème.
Ce sera noté, mise en crédit. Voilà, bah ça c'est beau, ça c'est l'Aïe des Ours qui arrive. Merci. Et des morilles. Wow. Oh là là.
Wow.
Ouais, ça sent bon pour les prochains jours au resto. Et du coup, on était sur...
On était sur les prix.
Et j'ai dû augmenter de 2 euros et mettre le plat végé au même prix que le plat carné, parce que finalement, on faisait des trucs avec des produits un peu chers.
Bien
et
sûr.
Même s'il n'y a pas de viande, ben, ça commence à augmenter le prix.
C'est sûr.
Et c'est quand même vachement mieux. Alors, on va voir après à terme. Mais c'est quand même vachement mieux, ouais.
Et oui, ok. D'accord. Alors, on va peut-être... je vais peut-être le goûter.
Bah
comme
ouais,
ça.
Carrément.
Et
j'ai bien envie.
Avec le vin qu'on va proposer ailleurs,
ouais.
Après, pour voir si ça se marie bien.
Alors, ce que je rajoute, tu vas voir, je vais rajouter un petit peu de ciboule de Chine, parce que j'en avais mis un peu, mais elle est passée au micro-ondes. Un petit peu de cébette, voilà, et un tout petit chouï de coriandre, pour vraiment que tu aies tout en bouche. Hop. Alors, j'avais dit dans la recette que je te servais un riz gluant. Malheureusement, je n'ai pas pu t'en faire un. Là, j'ai utilisé un reste d'hier. Donc, c'est un riz thaï classique. Mais le riz gluant, il a vraiment une texture et une saveur qui
différente.
Est...
différente.
Ah, c'est super bon.
Ouais. Ok. Ouais, ouais. Donc, on goûte et on reprend l'antenne après.
Alors, du coup, je vais goûter le vin que tu me proposes, là, Christine. J'ai envie de faire un petit bruit de bouche à la radio, là, je peux. Il est bon, il est vachement fruité. Moi, je manque pas, j'ai pas du tout les mots pour décrire le vin. Mais alors, vas-y, Christine, toi.
Alors, ce vin, c'est un vin du Clos Bagatelle, qui est un domaine de Saint-Chinian, qui est tenu depuis plusieurs générations par des femmes. On a déjà parlé de ces vins-là ici à l'émission. Si je me souviens bien, c'était une émission sur les rosés, je crois. Et donc ça, c'est le vin qui s'appelle Colline, qui est un vin qui est très soyeux en bouche, qui est parfumé avec des arômes de fruits rouges, un petit peu de rose, etc. Et pour les plats exotiques comme ça, qui sont bien parfumés, un peu piquants, mais pas trop, il faut un vin qui soit parfumé parce que sinon, on va perdre en bouche le goût du vin. C'est-à-dire qu'on va boire le vin... Et s'il n'a pas derrière assez d'arômes pour tenir la route, une fois qu'on a bu le vin et qu'on remange le plat, ben le vin, on l'a complètement oublié. Alors que si le vin reste en bouche avec des parfums un peu plus marqués, ça peut faire une jolie alliance de saveurs. Et là, dans le cas précis, effectivement, avec ces odeurs un petit peu, ces arômes pardon, de rose et de fruits rouges et de poivre, ça va tenir la route par rapport aux plats exotiques. Donc pour les plats exotiques, moi, je pense qu'il vaut mieux des vins pas trop fort en alcool, pas trop charnu, pas de barrique, mais des vins légers, mais parfumés.
Ouais, c'est pas évident parce que bon, alors, là, en plus, comme je t'ai dit, il devrait être un peu plus rehaussé. Mais bon, déjà, c'est quand même fort en arôme.
Oui.
Hein, t'as quand même le kombawa et puis le petit piquant. Ça, je me rends pas du tout compte comment l'associer effectivement avec du vin. Je suis toujours resté en retrait là-dessus.
Voilà.
Mais...
En fait, voilà, il faut pas que le vin se fasse écraser parce que sinon, on s'en rappelle plus et c'est dommage. Très difficile d'avoir un accord mets vins qui soit parfait parce que chaque personne cuisine différemment et puis bon, des fois les bouteilles évoluent, etc. Il faut goûter, regoûter, mais moi je préconise quand même un vin qui soit aromatique. Rouge bien sûr, et qui soit aromatique et léger.
C'est ce que j'allais te demander parce que du coup là tu nous as proposé un vin rouge. T'as pas pensé, enfin c'était pas concevable... Avec du vin blanc. Non, mais c'est une question vraiment d'amateur, désolé.
Alors, c'est concevable avec du vin blanc. À ce moment-là, il faudra partir sur un blanc qui est passé en fût de chêne, qui a du corps pour qu'il puisse assurer. Parce que si tu prends un blanc un petit peu léger, ça ne va pas passer parce que les blancs légers et un peu minéraux, ça va mieux sur du fromage pour rincer les papilles, par exemple. Mais si tu veux tenir la route et que ce ne soit pas trop marqué au niveau des arômes, il vaut mieux un blanc passé en barrique pour que la barrique donne le corps et des petites notes un peu boisées, un peu vanille, qui vont éventuellement se marier avec le bœuf. Mais si tu mets de la viande rouge avec un vin vif et frais que tu bois avec les huîtres, c'est absolument pas bon dans la bouche.
Oui, je peux imaginer, oui.
Voilà.
Comme boire du jus de pomme après avoir mangé du camembert, hein. C'est pas bon.
Tu parles d'expérience.
Bon, mais écoute, et du coup, tu nous as présenté ce vin
ça s'appelle Colline du Clos Bagatelle à Saint-Chinian. Et donc, c'est un vin qui est d'un prix un petit peu élevé, mais ça les vaut. C'est vraiment d'une finesse remarquable et ça se marie très bien avec ta cuisine, qui est aussi d'une finesse remarquable, j'ajoute.
Voilà, donc venez avec votre bouteille de bagatelle au restaurant. Vous la paierez presque le même prix qu'une mauvaise bouteille au restaurant classique.
Merci.
Bah merci à toi, en tout cas, c'est super sympa. J'avais bien envie de jouer le jeu et je ne savais pas trop sur quoi partir. J'avais envie de garder cette note exotique, mais je ne voulais pas te mettre à l'amende non plus.
Et oui,
mais
c'est gentil.
T'as relevé le défi.
Ah,
hein.
Très bien. C'était donc Vignes et Papilles. Nous vous rappelons que la consommation d'alcool se fait avec modération, même s'il est très bon.
Merci beaucoup en tout cas.
Vignes et Papilles, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radiosaintafrique.com.